RMC, Intégral Sport, Martial Fernandez.
Il est 20h06 sur RMC, l'Intégral Sport est votre demi-heure. Posez vos questions au 32-16 pour revenir sur cette étape du Tour de France, cette dixième étape du Tour remporté par l'Italien Vincenzo Nibali qui reprend le maillot jaune, qui creuse quelques écarts avec les favoris. On va y revenir et pour répondre à nos questions, Thierry Bourguignon de la Dream Team RMC Sport est là. Salut Thierry.
Salut.
Thierry Bourguignon, je vais juste pour resituer un petit peu cette étape, cette dixième étape, rappeler le classement avec des Français qui se sont bien comportés, puis rappeler évidemment l'autre information, c'est l'abandon d'Alberto Contador qui a chuté. Fracture du tibia, c'est ce qu'annonce son équipe ce soir. Une chute, il a quand même tenté de repartir. C'est Nibali qui s'est imposé au sommet de la planche des belles filles. Et derrière, les Français sont pas très loin. Thibaut Pinot à 15 secondes. L'Espagnol Valverde, 20 secondes. Quatrième, un autre Français, Perrault à 20 secondes aussi. Romain Bardet est cinquième. Richie Porte, septième. C'est plutôt pas mal pour les Français qui font un bon tir groupé, qu'on retrouve du coup au classement général avec Nibali qui reprend son maillot jaune. Nibali qui a maintenant 2 minutes et 23 seconde d'avance sur Richie Porte, Valverde 3e à 2,47 et puis les Français 4, 5, 6 et 8, Romain Bardet 4e 3,01,
c'est pas, beau,
ça. C'est pas mal hein. Tony Galopin, Thierry ça devait faire un petit moment, je vais juste finir mais ça fait un moment qu'on n'a pas eu ça, Galopin 5e 3,12, Pinot 6e 3,47 et Perrault 8e en 3,57, c'est vrai que les Français Thierry un tir groupé comme ça au sommet du classement général, ça n'était pas arrivé depuis un petit moment.
Surtout après l'étape la plus dure du Tour de France, hein, parce que on a beau dire,
pour toi c'est la plus dure.
Oh, c'est sinon la plus dure, c'est une des plus dures, hein, franchement. Mm-hmm. Quand je regarde les Alpes, c'est pas trop méchant, hein, l'arrivée à Champs-Rousses, l'arrivée à Rissoul. Bon, c'est sûr que c'est de la haute montagne, c'est différent, c'est pas les mêmes pourcentages, c'est sur la longueur que ça ça va se faire. Et après dans les Pyrénées sont un peu plus dures, mais bon franchement Saint-Lary, Pladadé, c'est une des plus dures avec Saint-Lary.
C'est le moment Saint-Lary. De poser vos questions 32-16 à Thierry Bourguignon, à Luc Leblanc qui va nous rejoindre dans quelques instants. On a Henri Pierre qui est avec nous. Salut Henri Pierre.
Oui, bonjour.
Alors Henri Pierre, t'as vu l'étape avec Nibali et surtout une équipe qui t'a impressionné, hein.
Oui. Astana. Oui. Alors c'est pour ça, bonsoir Bourgui.
Salut Henri Pierre.
Ouais, voilà. Alors moi ce que j'aimerais dire, c'est que on a vu qu'une équipe donc comme Astana, techniquement, elle est top. On a vu la façon qu'ils ont eu de passer les pavés. On a senti qu'ils étaient vraiment techniquement top. Tactiquement, aujourd'hui, ils nous ont montré qu'ils ont pu passer de mode offensif, défensif, parce qu'ils pensaient voir ce qu'il fait Contador, à un mode offensif en très peu de temps. Ils ont redéfini la tactique, la stratégie, ils l'ont mis en place et ça a marché. Et dernière chose, physiquement, on sent qu'il est au-dessus quand même Nibali. Mais moi, la question que j'aimerais te poser, comment ça se fait que nous, les Français, quelque part, on ne soit pas, quand je vois Pinot, par exemple, ou quand on voit Pierre Rolland, sentir qu'il n'y a pas une vraie stratégie autour de ces coureurs qui pourraient être peut-être mieux défendus. On voit, par exemple, des Thomas Vauclair ou quoi, partir dans des trucs qui semblent être un peu excessifs ou qui ne servent à rien. Et est-ce qu'on ne mériterait pas faire un peu comme font maintenant les AG2R? J'ai l'impression qu'ils ont pris en maturité en se disant, attendez les gars, on va pas faire n'importe quoi. Et je trouve que ça manque un peu de tactique dans ces équipes. Qu'est-ce que tu en penses?
Non, c'est pas tactique, c'est que il manque d'avoir les bonnes personnes, parce que Vauclair, il peut pas jouer la gagne comme ça, à rester accroché à Nibali dans les forts pourcentages, ça c'est clair. Donc il y en a qu'un qui pouvait faire ça chez dans son équipe, c'est Pierre Rolland. Bon, Pierre Rolland, en sortant du Giro, il est un peu émoussé, il a pas couru depuis le Giro, donc il manque un peu de compétition, il est un peu fatigué du Giro. C'est compliqué de faire le Giro et le Tour à la fois. Donc voilà, on a vu Nibali s'est abstenu du Giro, son Tour national, pour se consacrer au Tour de France. Ensuite, moi je suis pas d'accord avec toi, parce que Pinot, tout est basé autour de lui. La première semaine s'est relativement bien passé avec Pinot, sauf que une journée il traînait derrière alors que ses équipiers essayaient de le remonter, il a traîné derrière, un coup de bordure et ça fait une minute à la fin. Mais autrement, voilà, AG2R, bien sûr, AG2R, ils ont quand même deux super grimpeurs, Perrault Jean-Christophe et Bardet Romain. Donc là-dessus, ils jouent sur du velours. Et tout est basé à les amener, à amener ces deux grimpeurs dans les meilleures conditions au pied d'école pour jouer avec les meilleurs. Voilà,
bon, c'est simplement ça. Moi, je suis d'accord avec toi parce que alors tu penses réellement que cette année, on peut avoir un Français sur une podium alors.
Ah moi j'y crois de plus en plus parce que autant je n'y croyais pas parce que au départ du tour il y avait quand même des grands grimpeurs et des grands de ce tour avec Nibali, Contador et Froome. Aujourd'hui il n'y a plus que Nibali qui est au-dessus de la mêlée et les autres Porte, Valverde, eh ben ils font jeu égal voire même un peu derrière Bardet quand il se fâche et Pinot pareil. Aujourd'hui quand Pinot a démarré, les autres sont restés assis sur leur selle. Donc c'est attention, le tour ne fait que commencer en montagne, c'était la première et belle étape de montagne, une des plus dures certes, mais il reste quand même 11 jours de course et on va voir ça.
Merci à Henri Pierre qui nous a appelé au 32-16. On va juste rappeler, parce que Thierry qui en parlait, Pierre Roland aujourd'hui, il est 28e de l'étape, il a perdu 4 minutes 14 et du coup évidemment au classement général ça le fait reculer à 6 minutes 47 de Nibali. Luc Leblanc est arrivé avec nous, bonsoir Luc.
Bonsoir Martial, bonsoir à tous.
Bonsoir Luc.
Juste Martial, oui. Juste pour Pierre Roland, il a limité la casse. Parce qu'on a vu que
ceux craqué,
qui étaient devant hier, forcément ont craqué. À part, bon, il a craqué autant que le maillot jaune.
Voilà, autant que Tony Gallopin, voilà. qui lui aussi a limité la casse. On va accueillir Gilda qui est avec nous au 32-16. Gilda, fervent supporter des coureurs français. Salut Gilda.
Bonsoir la bonne team.
Bonsoir.
Salut, Gilda. Ouais, je suis fervent supporter des coureurs français. On en trouve 4 aujourd'hui dans le top 10. On certainement Tony Gallopin qui va pas y rester, hein, mais je pense que sur une longue échappée, Pierre Roland peut revenir dans le top 10. On sait qu'il a l'habitude d'en faire, hein, on l'a vu sur le dernier Giro aussi et sur les tours précédents. Moi je pense que les Français, on peut en trouver un sur le podium dans 11 jours. Je parle bien de Thibaut Pinot, aujourd'hui il est sorti, on sait quand il sort c'est qu'il a des bonnes jambes. Dans les prochains jours, je pense qu'il va refaire quelque chose, soit dans les Alpes, soit dans les Pyrénées. Les Pyrénées, à mon avis, vont mieux lui convenir, il y a plus de pentes. Et puis, je voulais vous interpeller aussi, est-ce qu'on en fait pas un peu trop avec les abandons de Froome et Contador? Ok, c'est deux super favoris qui abandonnent, mais est-ce que le Tour de France va pas en être plus beau? Parce que on a vu ces dernières années qu'il peut neutraliser quand même pas mal, et ça réglait un peu le Tour au chrono. Là, ça va être assez débridé. Nibali, il a beaucoup de chance. Il va laisser certainement des cartes de sortie parce qu'il va pas pouvoir sauter sur tout. Donc, je pense que les Français ont vraiment leur coup à jouer.
On n'en fait pas trop sur les abandons de Froome et de Contador parce que bon, c'était quand même les principaux favoris de ce Tour de France. Donc c'est dramatique pour le Tour parce que on s'attendait voir une belle bataille entre Froome, Contador et puis Nibali. Après il faut toujours en parler concernant les Français. Ouais, tu as quand même Valverde et Thibaut Pinot, il peut monter sur le podium, mais tu as quand même Valverde et Richie Porte, et c'est pas des bons à rien sur le contre-la-montre. Donc il va falloir qu'il ait un matelas assez conséquent avant l'avant-dernière journée, Thibaut Pinot, même Romain Bardet, pour pouvoir prétendre à monter sur le podium. Et il va falloir vraiment faire exploser Valverde et Richie Porte soit dans les Alpes, soit dans les Pyrénées, mais...
Tu sais, Lucho, ça peut être la porte ouverte à un coureur français qui va prendre conscience qu'il peut monter sur ce podium et qui peut même peut-être inquiéter Nibali, parce que c'est jusqu'à présent on faisait peut-être on se faisait peur de tous les grands champions qu'il y avait devant eux. Et on s'aperçoit que déjà au départ du tour, ils ont peur de rien aujourd'hui.
Non, mais c'est sûr que bon,
ils sont regonflés. Un coureur français sur le podium, c'est possible. Hein, c'est possible.
Non,
après,
il
y a rien de facile.
Il y a rien d'impossible.
Clair.
Impossible n'est pas français. Ouais. Mais ceci dit, il va falloir qu'ils prennent vraiment, qu'ils aient un très très bon matelas avant le chrono de Bergeron et de Périgueux. S'ils n'ont pas le matelas,
oui, vas-y. petites limites. Il faut pas oublier que l'année dernière, Richie Porte, il a quand même craqué dans une étape où il avait pris une 6 minutes.
Ouais. Oui, on sait pas si c'est pas un alibi hein, aussi. Hein,
Ouais,
le lendemain d'une petite critique au niveau des Sky, comme par hasard.
Puis tu sais, l'année dernière, c'est l'année dernière, hein, Gilda, parce que cette année, bon, il a plus de leader, donc bon, il a son équipe autour de lui. Il y a une certaine mise en confiance. Il va s'affirmer un peu plus, donc voilà. Et bon, il est quand même deuxième au classement général, donc il a un statut. Et il a pas le même statut cette année que celui des dernières, donc c'est complètement différent au niveau de la situation de course aussi.
On va remercier Gilda qui nous a appelé au 32-16 en parlant de statut. Luc et Thierry, le fait qu'il n'y ait plus d'anciens vainqueurs du Tour maintenant dans la course, est-ce que ça peut ouvrir les velléités pour certains, ça peut leur donner envie d'aller plus vite et qu'il n'y ait pas vraiment de patron du coup? Ou est-ce que Nibali a l'étoffe du patron?
Oh, il a l'étoffe du patron, on l'a vu aujourd'hui. Hein, quand il dit à son équipe de prendre la course en main, ils la prennent et puis comme il faut en plus. Non, c'est une équipe solide. Lui a l'air très solide. C'est vrai que ça va ouvrir la porte à des attaques multiples avec des comme je l'ai dit, des Bardet, des Pinot qui vont peut-être prendre conscience qu'ils peuvent monter et accéder au plus haut du podium. Voilà, c'est tout. Donc il y a plus de place pour les autres hein, quand il y a les absents. Hein.
Luc.
Oui, oui, non, mais c'est certain. Là, il y a Cyril qui est en train de me...
Attends. Tu t'embêtes?
Oui. Il est en train de débrancher mon truc alors que j'en ai besoin, mon chargeur. Alors, retranche-le, Cyril. Oui, alors, au niveau des coureurs, parce que là, j'y suis plus.
Non, on parlait du fait qu'il n'y ait pas d'anciens vainqueurs, que Nibali pouvait prendre... Est-ce que ça pourrait donner envie et ouvrir l'appétit de certains coureurs de ne pas avoir d'anciens vainqueurs du Tour maintenant qu'on course?
Oui, de toute façon, ça ouvre l'appétit, ça, c'est clair. Mais bon, quand tu regardes un petit peu ce qu'a fait Nibali et son équipe aujourd'hui, les autres derrière, même s'ils ont des envies, ouais, il faut avoir une équipe comme celle de Nibali. Il faut avoir au moins un équipier ou deux à leur côté, ne serait-ce que pour les grandes étapes de montagne, les Alpes et puis les Pyrénées. Mais ceci dit, oui, ça va ouvrir l'appétit de pas mal de coureurs, en effet.
Alors Luc et Thierry, ce que je vous propose justement, c'est d'écouter Romain Bardet, le Français, qui est quatrième du général, 3 minutes 01 de Vincenzo Nibali. Écoutez ce qu'il répond, le coureur âgé de Zerla Mondiale, quand tu lui demandes si Nibali est imbattable sur ce tour.
Imbattable, on sait pas regarder malheureusement ce qui est arrivé à Alberto Contador, c'était le favori je pense. Voilà, il m'est passé devant, il a raté le guidon, c'est une chute vraiment impressionnante. Donc on a vu Chris Froome, personne n'est à l'abri de quoi que ce soit sur ce tour, ni les leaders ni les outsiders, donc on va voir. Et puis pourquoi pas un coup de Trafalgar aussi, nous avec Jean-Christophe on aura deux cartes et j'hésiterai pas à jouer de tout pour le tout à un moment donné, on sait jamais. Voilà, hier je me suis fait un petit peu, j'ai envie d'aller dans l'échappée, on m'a interdit un petit peu d'y aller, tant mieux parce que bon aujourd'hui ça, on a vu que les coureurs aient payé leurs efforts d'hier, mais voilà pour l'instant j'ai été un peu suiveur sur ce tour, j'espère en être vraiment plus acteur dans les 10 prochains jours.
Romain Bardet qui répondait à Olivier Schwartz à l'arrivée de l'étape, le fait qu'il y ait aussi deux coureurs à G2R, la mondiale, Thierry, Luc, dans ce classement, est-ce que ça peut aider?
Oui, forcément.
Ou est-ce qu'il faut décider qu'il y a un patron?
Non, là, il joue sur le velours, deux têtes pour jouer pas la gagne, mais peut-être la gagne d'une étape et le général, on peut pas faire mieux, hein, c'est clair. Après, c'est à la pédale que ça va se décider, c'est clair. Mais bon, Bardet, pour le connaître un petit peu, il a un super caractère, c'est vraiment un winner. Le gars, il va rien lâcher et je suis persuadé que ce qu'il a dit, il va tenter une nouvelle fois sa chance et il va la saisir parce que il sait qu'aujourd'hui, plus qu'un autre jour, du moins cette année, plus qu'un autre une autre année, il est possible de monter et de se rapprocher possible de la gagne.
Ouais, mais il va pas partir comme ça maintenant.
Maintenant
qu'il est quatrième au classement général,
ça va se faire la pédale. Hein, maintenant,
Ça va se faire la pédale, mais il va falloir vraiment qu'il soit costaud pour
tenir.
Ah oui.
Mais on a vu
d'être
qu'aujourd'hui
égal à égal avec Nibali, mais bon,
non,
plus
non, mais Nibali. Ouais. Nibali, je le mets à part, toi.
Oui, mais il va essayer de tenir.
Et sortir porte les Valverde et les Van Garderen.
Dans la stratégie de course, Thierry. Ça serait mieux de tenir Nibali pour Romain que de tenir d'essayer de larguer de tenir Valverde et Richie Porte. S'il arrive à tenir Nibali Bah là, il a tout gagné, quoi, parce que
non, mais tu comprends ce que je veux dire. Il y a personne qui doit l'intéresser là aujourd'hui. Et puis après, dans les arrivées au sommet, s'il peut se permettre de partir seul sur les derniers kilomètres, sur les derniers kilomètres. Mais et de toute façon, la seule erreur qu'il pourrait faire, c'est ce qu'il a dit tout à l'heure, c'est de vouloir prendre un coup.
De toute façon, il faut pas avoir de regrets. Il faut attaquer. De toute façon, il faut le faire.
Luc, Thierry, on est ensemble jusqu'à 20h30. Le 32-16, vous êtes ouvert. Luc Leblanc et Thierry Bourguignon qui répondent à vos questions. On a Thierry qui nous a appelé au 32-16. Bonsoir Thierry.
Oui, bonsoir.
Bonsoir Thierry. Oui,
voilà. Salut bonsoir. Thierry.
Voilà, je voulais juste vous poser une question là. Comment Contador, après sa chute là, qui a perdu 3-4 minutes, on lui a bandé le genou droit. Et après 20 minutes ou 30 minutes de plus où il a fait les trois quarts en danseuse, il abandonne et après on nous dit qu'il y a une fracture du tibia gauche.
C'est un trait de fracture déjà, c'est pas la vraie fracture, mais trait de fracture sur la tête du tibia. C'est puisque c'est le genou qui a tapé. Je pense vraiment, sans connaître le côté médical de la chose, le dossier médical, je pense que c'est ça, parce que c'est vrai qu'avec une fracture du tibia, on peut pas remonter sur le vélo et continuer.
Oui, c'est là, vrai qu'il va y avoir des examens complémentaires, c'est ce que dit Bjarne Riis, hein, le patron de son équipe, et on en saura un peu plus plus tard.
Apparemment, il parle de fracture de tibia gauche, et on lui a bandé le genou droit.
Mais
là il y avait une grosse plaie au genou droit.
Ça saignait énormément au niveau du genou droit, donc et puis il y avait peut-être pas de plaie au niveau du tibia à gauche aussi, hein. Donc c'était pas visible par rapport à ce qu'a pu voir le médecin sur la course.
Et puis a priori Nibali était a témoigné que juste devant lui ça s'est passé et qu'il a fait vraiment une grosse gamelle à plus de 60 km.
Ouais, mais en fait ma question quoi c'est comment avec une fracture, bon peu importe si c'est à droite ou à gauche d'ailleurs, comment on peut remonter sur un vélo et se dresser sur les pédales en danseuse pour faire ne serait-ce que 2 ou 3 km quoi.
Oui, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est peut-être un trait de fracture sur la tête, la tête du tibia, et c'est pas le tibia coupé en deux avec une vraie fracture.
On a vu Contador sortir du camion médical qui était installé en bas de l'arrivée, de la ligne d'arrivée, et donc ils ont constaté réellement la fracture du tibia à gauche. Et là, c'est officiel.
Oui, c'est
bien. Donc à gauche, d'accord, d'accord.
Ça veut dire qu'à chaud, on peut faire des choses
Bien sûr, sur l'énervement, sur l'adrénaline, c'est un antidouleur aussi, hein, l'adrénaline. Donc, sur l'euphorie, il voulait se persuader qu'il était capable de revenir, et puis après, on a vu au bout d'un moment, il a dû se soumettre à la chose.
Merci beaucoup Thierry de nous avoir appelé
au
32-16.
Petite info, c'est à droite, c'est pas à gauche.
C'est à droite la fracture, donc du côté du genou qui a été blessé, ça me semble un petit peu plus logique aussi. Voilà. Fracture donc après des examens, passée à l'unité médicale mobile du Tour de France à l'arrivée de l'étape. On va accueillir Ramon qui est avec nous au 32-16. Salut Ramon.
Bonjour.
Salut Ramon.
Avec Luc Leblanc, Thierry Bourguignon.
Oui, ils sont là.
On est là tous les deux.
On t'écoute, on t'écoute.
Tout d'abord, bravo pour vos émissions que j'écoute sur le tour. Je coupe le son de la télé et j'écoute RMC avec la radio. Donc,
c'est bien.
C'est gentil, merci.
Ma question est un petit peu anecdotique. Je fais depuis 8-10 ans un petit peu de vélo. C'est un sport extrêmement difficile. Et je suis étonné maintenant, quand je vois le peloton, qu'environ 80% des vélos sont noirs. Je me rappelle, il y a 10, 15, 20 ans, il y avait des vélos orange, bleu, vert.
Alors, il y a le vélo
de Chavanel qui est un peu spécial, mais tous les vélos sont noirs.
Le commercial, il va répondre.
Déjà que c'est un sport où on souffre beaucoup, je suis toujours étonné de ça, un petit peu comme une salle de muscule où tout est en gris. Alors, je voulais savoir s'il y a une mode, moi-même quand je vais à Boulogne faire quelques tours, 80% des vélos sont noirs maintenant. Le pourquoi et le comment?
Le pourquoi du comment, c'est que quand on sort, et je peux vous le répondre parce que je suis commercial dans le cycle, donc chaque fois qu'on nous dit que c'est triste, que c'est noir comme vous, et puis quand on sort des couleurs, et ben on s'aperçoit d'une chose, c'est que les gens achètent quand même les couleurs blanches, rouges et noires. Et quand on fait souvent les vélos à la mode, c'est du rouge noir blanc. Donc voilà. D'accord. Bon après moi je trouve que Astana a des vélos un vélo blanc et bleu. Tinkoff c'est un jaune et non, il y a de la couleur, il y a Katusha, il y a du rouge.
Non, vous avez raison, c'est rouge blanc, mais je me rappelle, bon, je veux pas faire le 14-18, mais avant il y avait des équipes qui avaient toutes le même vélo, des verts, des violets, Poulidor avait des vélos violines, des oranges et c'est vrai, vous avez raison, c'est rouge blanc rouge blanc noir point.
Bon, ah bah si vous voulez vendre des vélos, je vous assure qu'on a beau donner le choix à nos clients des couleurs fun, parce qu'aujourd'hui il y a quand même beaucoup de couleurs fun qui arrivent sur le marché, et en le mélangeant avec le noir qui reste une couleur neutre au sens propre et figuré, on a ce petit coloris qui casse la sobriété du produit et qui commence à plaire.
Merci beaucoup Ramon de nous avoir appelé.
Moi je trouve très rigolo le vélo de Chavanel en fluo.
Oui, il est très sympa.
Ouais, c'est
très
sympa.
Mais vous voyez le Cofidis, il est rouge, il est bleu, il est jaune, les couleurs.
C'est vrai.
La couleur mondiale.
Bravo.
Merci Ramon de nous avoir appelé au 32-16. Ce sera comme ça tous les soirs.
Je préfère le blanc, moi.
On a eu pas mal. On a eu un petit cours de marketing là de Thierry Bourguignon.
Non, marketing. Ben, ouais, oui.
Ce qui vend le plus, c'est le noir.
Il y avait une question.
T'as le look coco. Hein.
Ouais.
Bon messieurs.
Bon, le blanc et noir.
Voilà. Jour de repos demain.
Pas difficile. Ouais, journée de repos. Pas pour tout le monde. Pour les coureurs, oui.
Et nous, on bosse. On sera là.
Eh oui.
Ben merci beaucoup.
Rendez-vous demain soir.
Luc Leblanc, Thierry Bourguignon.
Avec plaisir.
Bonne soirée à vous, on se retrouve tout à l'heure. Nous, on va parler foot dans quelques instants. On va partir du côté du Brésil parce que la Coupe du Monde est terminée, mais il y a encore les champions du monde qui sont juste sur le point de partir. Et puis là, il est 20h28 sur RMC.